Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'association Bordeaux-Aquitaine-Maroc est heureuse de vous accueillir et de remercier tout d'abord la librairie Mola de bien vouloir nous recevoir dans ces locaux qui sont connus de beaucoup d'entre vous. Nous allons vous présenter ce soir Aziz Charkaoui, qui est l'auteur de l'ouvrage que vous avez en face de vous, qui s'appelle Marrakech, homme et monument. Et avant de lui laisser la parole, je souhaite vous dire quelques mots très brefs qui il est. Aziz Charkaoui est un personnage à multiples facettes. Professionnellement, c'est d'abord un vétérinaire qui a suivi le cursus habituel de tout vétérinaire, l'école de Maison Alfort, puis l'université de Créteil. Il a fait également, pour compléter sa formation, des études de biologie. Il exerce à Marrakech. Il a également une activité politique. Il a été, et il est, député, adjoint au maire et membre de la Chambre de commerce. C'est un homme curieux qui écrit sur beaucoup de sujets. C'est un grand amateur de bridge et c'est surtout un amoureux de sa ville. Il est marrakchi à 100% et il a vu l'idée et le désir de consacrer un ouvrage à la cité qu'il a vu naître et dans laquelle il a développé son activité. Alors nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Je veux simplement ajouter, avant qu'il ait une qualité supplémentaire pour nous, c'est qu'il est le représentant au Maroc de notre association Bordeaux-Aquitaine-Maroc et que nous pouvons toujours compter sur lui lorsque nous organisons des manifestations ou des voyages. Et je me permettrai d'ailleurs, à la fin de cette réunion, de laisser à la sortie quelques documents qui vous renseigneront sur l'activité de notre association et ses projets. Aziz, il faut maintenant entrer dans le vif du sujet. Homme et monument, cela signifie que vous vous êtes intéressé à ceux qui ont écrit l'histoire de Marrakech et aux monuments, édifices et autres qui en gardent la trace. C'est l'histoire. Mais peut-être serait-il bon, avant de commencer cet entretien, de nous situer ce qu'est aujourd'hui, au XXIe siècle, la ville de Marrakech, quel est son poids économique, quel est son poids politique au Maroc.
Bien, merci, cher ami président Daniel Lacroix. Je voudrais tout d'abord, avant de répondre à la question, vous dire combien je suis très heureux d'être à Bordeaux, une ville vraiment que je connais peut-être depuis un certain temps, puisque la première fois que je suis venu ici, invité par Feu Chaban-Delmas, c'était déjà en 1976, où j'étais directeur des Haras et je suis venu représenter donc la ville de Marrakech. Pour les Bordelais, ils connaissent ça très bien, le fameux jumping international qui avait lieu chaque début du mois de décembre, avant qu'on aille à Paris. Et puis, par la suite, s'est développée une relation. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais donc, vous comprenez aisément pour un Marrakechi qui a connu cette ville où il a passé de bons moments, chaque fois que je viens, même pour une courte durée, d'abord, je me sens chez moi, ici à Bordeaux, bien que j'habite Marrakech, et puis je me sens très très bien, beaucoup plus peut-être que dans d'autres régions ou d'autres villes en France. Donc c'est une ville qui a quelque chose pour moi, comme une relation mutuelle qui se produit. Alors Marrakech, je vais bien sûr, je voudrais avant de répondre aussi, adresser mes remerciements à tous et mes amis de Bordeaux-Aquitaine-Maroc. Vous savez que Bordeaux-Aquitaine-Maroc a été créé sur une haute décision du président Chaban-Delmas et du roi Hassan II, dans le but apolitique de nouer des relations, qu'elles soient culturelles, économiques, sportives, tout ce que vous voulez. Et Dieu sait combien il y a eu d'échanges dans ce cadre-là entre la ville de Bordeaux et la région, et même l'extension avec les golfeurs de France, et tout ça, et je saisis l'occasion pour saluer mon ami Michel Laurent, qui a assuré la présidence avant mon ami de la Croix, et pendant longtemps depuis sa création. Alors, pour répondre, et situer Marrakech, bon, ceux qui ne connaissent pas Marrakech, vous avez le Maroc. Marrakech, aujourd'hui, sur le plan de la population, est la troisième ville après Casablanca, qui est aux alentours de 7 millions, Rabat, un peu plus que Marrakech, et donc c'est la troisième ville. Il y a une population un peu fluctuante, parce que si on parle du petit Marrakech urbain, c'est 1,2 million. Si on parle du grand Marrakech avec tout ce qui est avoisinant, on est dans les alentours de 3 millions. Ville internationale. Ça, je n'ai pas besoin de le dire, tout le monde connaît le label de Marrakech, connaît la ville de Marrakech. Activité essentiellement touristique. Marrakech, vous pouvez y aller en janvier, février, mars ou avril, sur la place Jemaa el Fna, dans les souks, partout, vous ne rencontrez que des étrangers. Majorité française, certes, mais nous avons beaucoup de gens, surtout d'Espagne, d'Angleterre, et des États-Unis, des Japonais. Enfin bref, c'est vraiment une ville qui est devenue internationale. Et puis tellement intéressante que quand j'étais... on avait œuvré avec l'UNESCO pour qu'on puisse rentrer en 85 la ville de Marrakech comme patrimoine mondial. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en 99, nous avons, et on l'a obtenu en 2000, la fameuse place Jemaa el Fna que vous connaissez bien à Marrakech, où il y a tous les charmeurs de serpents et tout ça. C'est une place qui a été classée depuis 2000, donc patrimoine oral mondial de l'humanité, donc depuis une dizaine d'années à peu près. Alors aujourd'hui, il y a une grande industrie, parce que le tourisme, comme vous le savez, c'est quelque chose, je dirais pas d'éphémère, mais c'est une industrie qui est très sensible et très variable. Rappelez-vous quand, par exemple, en Égypte, il y a un mort pour raison X, un fou, eh bien, les gens n'y... Donc, si vous voulez, le Marrakech actuellement base son économie sur le tourisme, qui est très important, mais nous avons aussi de l'industrie qui commence à se développer, avec des délocalisations et surtout l'industrie agroalimentaire, parce que les alentours de Marrakech, il y a beaucoup d'oliveraies, beaucoup d'oliviers et beaucoup d'abricotiers, et actuellement on fait aussi beaucoup de cultures sous serre. Donc, de cette agriculture qui se transforme, il y a une industrie agroalimentaire qui s'installe. Alors, par ailleurs, je voudrais signaler une chose qui intéresse particulièrement nos amis français, c'est que depuis cette fameuse, j'allais dire, émission de Surcapital où on a montré les riades à 20 000 euros et tout ça, je peux vous dire que, et j'en suis fier, la communauté internationale et particulièrement française est venu s'installer pour rénover des riades et créer ce qu'on appelle les maisons d'hôtes. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a à peu près 1400 maisons d'hôtes tenues par essentiellement des étrangers, et qui est une source de revenus très importante, parce que les gens n'ont plus envie d'aller dans ces hôtels standards, ces hôtels avec cette, disons, qualification internationale, comme vous le savez. Voilà. Les gens aiment un peu le dépaysement, donc ils veulent aller dans un riad, dans une maison, avoir ce petit déjeuner assis par terre, servi par des gens habillés. Bon, bref, la mode du riad a pris énormément, si bien que maintenant à Marrakech, vous avez une panoplie de riad. Ça va du riad à 20-30 euros la nuit, jusqu'au, si vous voulez, le riad où ça peut atteindre des sommes, par exemple le palais Charbar, où il y a une 8 chambres, je crois que la chambre elle est à 1500 ou 2000, mais c'est quelque chose de vraiment de top. Ça passe par 100, 120, 200, enfin bref, il y a tous les paliers. Donc Marrakech, mon cher la Croix, c'est une ville très importante, une ville très importante dans le contexte touristique industriel. Et sur le plan international, je vais même dire, on a un petit problème, parce qu'on a un palais de congrès qui est comme celui de Nice, qui 2500 personnes. Aujourd'hui, toutes les grandes sociétés, tous les laboratoires, disons Marrakech, capte beaucoup plus tous les grands laboratoires, les grands congrès médicaux, tout ça se passe à Marrakech, ce qui nous procure une activité très très importante. Et puis vous avez donc la Médina. Alors politiquement Marrakech, alors je connais pas la division de Bordeaux, mais si on prend Paris que je connais, il y a 20 arrondissements. Alors il y a 5 arrondissements. Il y a la Médina, le Guéliz, la Palmeraie, je vous dis comment les noms, vous n'êtes pas censé, Sidi Ousmane Ali, et donc il y a 5 arrondissements. Donc qui font que chaque arrondissement a son conseil municipal qui le gère, et les bureaux de chaque conseil municipal se réunissent pour former ce que vous dites, la CUB chez vous, la communauté urbaine. Et nous, c'est la grande mairie actuellement qui réunit à peu près 96 élus et qui viennent de différentes mairies, chacune suivant le nombre de la population, et formée de 39 conseillers municipaux. Alors ça, c'est la mairie. À côté, nous avons la région. Marrakech se trouve dans ce qu'on appelle la région Tensif Tlahaouz, qui comprend Marrakech et Essaouira, El Kela, et cette région a une représentativité où je suis d'ailleurs élu, on est 150 élus régionaux. Nous avons aussi une chambre de commerce donc de Marrakech, et à côté de cela, donc ça, ce sont les instances élues. Bien sûr, nous avons une chambre professionnelle artisanale, une chambre d'industrie, une chambre d'agriculture. Donc tous ces corps élus exercent leurs fonctions. Ils sont élus au suffrage, ça dépend soit universel, soit un scrutin de liste pour les chambres professionnelles. Et puis à côté de cela, nous avons la wilaya. Alors les wilayas, c'est l'équivalent de votre préfet. Alors Marrakech, il y a un grand préfet, les préfets de département, c'est exactement la même chose avec un grand préfet. Donc, ajoutant à cela que sur le plan international, et aussi bizarre que ça puisse paraître, par exemple Casablanca où il y a 7 millions d'habitants, eh bien Marrakech aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de consulats, dont des consulats officiels qui représentent réellement leur pays, comme la France. Il y a un consulat général, mais par contre, il y a beaucoup de pays où ils ont une représentativité honoraire. Alors il y a à peu près aujourd'hui 19, nous sommes une association, puisque moi-même je suis consul honoraire du Pakistan, et nous sommes 19 pays représentés. Donc à Marrakech, ces pays sont représentés par soit quelqu'un de leur communauté, soit ils choisissent quelqu'un de la ville pour être consul honoraire. Voilà, donc Marrakech est bien sûr jumelé avec Marseille, tout comme Bordeaux avec Casablanca. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Il y a un lycée français, il y a une grande communauté. Ah oui, à propos de la communauté française, les 10 dernières années, le chiffre est passé de 3 000 personnes à aujourd'hui à peu près 14 000 à 15 000 personnes. Parce que tout le monde n'est pas inscrit au consulat. Monsieur Sarkozy, quand il a inauguré le nouveau consulat, il a parlé à ses compatriotes en disant « Venez vous inscrire parce que n'ayez aucune crainte, il n'y a pas de connexion entre le consulat et le ministère des Finances ». Alors tout le monde a rigolé, et puis donc, mais on estime à peu près à 15 000 la communauté française, dont une bonne partie n'est pas inscrite sur les registres de... Voilà. Je vous dirai aussi concernant la population française, puisque je suis un petit peu ça de près. La tendance veut que les Français habitant Marrakech votent plutôt UMP à majorité. Il y a à peu près 60-70%. Une vingtaine pour cent, 20% votent socialistes. Et puis le reste, même le Front National existe à Marrakech, puisqu'ils ont recueilli aux dernières élections 40 voix. Donc ce qui est un peu contradictoire pour que j'ai des gens qui vivent. Mais ça, c'est vous dire. Marrakech, c'est une ville, je vous le dis sincèrement, où moi personnellement, mais il faut peut-être poser la question à des Français qui vivent, ils seront à même à vous répondre, on ne voit pas la différence de vivre à Marrakech, à Bordeaux, à Paris ou à Oléron, Puisque pourquoi j'ai dit Oléron ? Parce que je voudrais saluer des amis intimes qui ont fait le voyage pour venir m'écouter. Et ils sont là, Marie-Vonne et Jean-Claude, que je remercie au passage. Et donc, Marrakech, c'est une ville internationale. Quand vous avez tous les restaurants. Y a pas, vous avez le dépaysement et vous pouvez vous retrouver dans votre ambiance, dans votre biotope naturel. C'est une ville en plus, paraît-il, qui donne beaucoup à l'étranger. Et ça, je peux vous l'assurer. Tout étranger qui vient à Marrakech gagne beaucoup d'argent, surtout. Alors, si vous voulez donc vivre dans un climat extraordinaire et gagner bien votre vie, ben venez à Marrakech. Alors, s'il y a une question particulière que j'ai oubliée, je suis prêt à...
On fera les questions après.
D'accord.
Bon, Aziz, venons-en à votre livre, à vos intentions. Quand on découvre cet ouvrage atypique, on peut se poser la question, comment appréhender ce livre ? Est-ce un livre d'histoire, un livre d'art, un guide, un vade-mecum ou encore autre chose ? Quel est votre sentiment là-dessus ?
Je l'ai dit dans l'introduction du livre. D'abord, je réponds tout de suite, je n'ai pas la prétention d'apporter quelque chose dans le cadre de l'histoire. Je ne suis pas un historien, je ne me prévaut pas d'être, pour être historien, il faut avoir une base de formation très solide, ce que je n'ai pas d'ailleurs, et dont je ne me prévaut pas. Par contre, je vais vous dire ce livre, pourquoi je l'ai fait. Et de là, on va savoir qu'est-ce qu'il représente. Je suis vraiment un fils du terroir de Marrakech. Je suis né, j'ai grandi dans cette ville. J'ai eu la chance de faire des études jusqu'au baccalauréat. Ensuite, mes études, comme l'a dit Daniel, vétérinaire à Maison Alfort. J'ai passé mon doctorat à Paris. Mais depuis que je suis revenu, j'ai travaillé dans cette ville. Et quand j'ai travaillé dans cette ville, j'estime qu'elle m'a donné beaucoup, cette ville, que j'ai fait un parcours, disons, d'un homme, je remercie Dieu, heureux, parce que cette ville, la ville des sept saints, comme on appelle, m'a beaucoup donné. J'ai fait de la politique, j'étais député-maire, j'ai essayé de faire des choses pour cette ville, mais la ville m'a beaucoup donné, et j'ai connu beaucoup de choses, j'ai vécu des choses extraordinaires, cette ville. Et depuis une dizaine d'années, je me suis posé personnellement le problème. J'ai dit, bon, j'ai écrit des livres, j'ai écrit des choses, il y a 4 ans, j'ai écrit avec Henri Guénaud quelque chose, mais là, c'est absolument politique, sur l'Union pour la Méditerranée. C'est le seul livre qui a été écrit dans ce sens. Et je l'ai réalisé parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, même si on dit, à cause du problème palestino-israélien qu'il y a un problème, moi j'ai toujours l'espoir parce que je suis quelqu'un qui aime la tolérance, qui croit que le monde est fait pour tout le monde, toutes les religions et tout. J'ai vécu ma vie comme ça et c'est pas aujourd'hui que je change. Alors donc, ce livre, j'ai dit, je voudrais donner ne serait-ce qu'un petit peu à la ville qui m'a beaucoup donné. Et c'est ce que j'ai dit dans le... Alors j'ai réfléchi quoi ? J'ai pensé à beaucoup de choses, de faire un livre sur les familles de Marrakech. Là, ça devient plus... Et puis je me suis dit, quand même, cette ville, elle est représentée par des hommes, elle est représentée par des monuments. Et en feuilletant tous les livres qui ont été faits, et là j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a des photos... qu'on a eu des difficultés pour des gens qui sont morts il y a 90 ans, donc qui ne sont pas, je m'en excuse d'avance, parce qu'il y a des photos qui ne sont pas de grande qualité, mais ce n'est pas de ma faute, on n'a rien pu faire. Je me suis dit, je voudrais rendre hommage à ma ville en parlant de tous ceux qui ont fait quelque chose pour cette ville. Donc de là dire, c'est un livre d'information, c'est un vade-mecum, appelez-le comme ça, c'est un... ce que vous voulez, mais j'ai voulu parler de tous ceux qui ont donné quelque chose à Marrakech, si petite soit-elle. Ils ont apporté, soit par leur savoir, soit par dans la politique, soit dans la théologie, soit dans le sport, mais ce qui est important dans ce livre, c'est que toutes... personne, même si elle n'est pas née à Marrakech, elle a une relation très forte avec la ville de Marrakech. Mais comment ? Alors, les gens m'ont reproché. Pourquoi je ne mets pas un paragraphe par personne ? Alors, c'est là où je dis que je ne suis pas historien. C'est là où je dis, par exemple, mais j'estime, mais ça, vous savez, quand on fait un bouquin, on se dit on a toujours bien fait, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Mais je dis, Par exemple, quand on prend ce bouquin et on voit que Monsieur X était telle chose, eh bien, tous ces gens-là, il y a beaucoup de bouquins qui sont faits, notamment les théologiens, les gens de la résistance, les grands sportifs qui ont gagné des médailles d'or, des choses. Il y a des bouquins qui parlent de la vie. Mais mon bouquin, mon livre, a pas la prétention d'être complet, mais d'être vraiment, de réunir tous ceux qui ont fait. Celui, par exemple, cher ami, qui est intéressé par tel personnage, que ce soit dans le domaine sportif, politique, théologique, dans le domaine littéraire, dans le domaine de la chanson, dans le domaine des acteurs, dans le domaine... Et en plus, il ne faut pas oublier une chose, parce qu'une ville, il faut savoir que Marrakech, depuis le 15e siècle, elle dénombrait déjà 16 nationalités étrangères qui vivaient depuis le 15e siècle. Il faut savoir une chose, et moi, il y a des étrangers qui ont contribué, et essentiellement des Français, à l'évolution de cette ville. C'est ce que j'ai appelé les amis de Marrakech. Donc, et ils sont très nombreux dans tous les domaines industriels, politiques, etc. Des gens qui viennent passer leurs vacances, bien qu'aujourd'hui... Passer des vacances dans un pays, quand on est dans un gouvernement, c'est mal vu. Mais enfin, mais nous avons à Marrakech reçu énormément de gens. Et il y a des gens qui ont leur maison et des gens très connus en politique. Et des gens qui viennent. Et ces gens ont contribué. N'oublions pas aussi, je tiens à le dire, le Maroc a été sous le protectorat français du début du siècle 1908 jusqu'à l'indépendance en 1956. Moi, je dis, le protectorat n'a pas apporté que des mauvaises choses. Et relativement, l'indépendance s'est passée. Bien sûr, on a eu des choses en tant que Marocain que je ne peux pas accepter. Et comme toute personne qui était, quand Hitler occupait l'Alsace-Lorraine ou occupait la France, qui n'acceptait pas. Mais ce n'est pas la comparaison que je voulais faire. Le protectorat français a amené des petites choses, les lignes de chemin de fer, etc. Bien sûr, il a fait les lignes de chemin de fer parce qu'il envoyait le phosphate en France. Mais quand les Français sont partis, ils ont laissé les lignes de chemin de fer. Donc, vous savez, dans ces histoires-là, nous, nos relations historiques avec la France sont toujours bonnes et quel que soit X, elles le resteront. Donc, j'ai voulu parler de ces étrangers qui ont apporté... dans tous les domaines. Vous savez que dernièrement, je viens de découvrir que depuis 30 ans vivait Henri-Louis Lagrange, qui est... Alors là, j'ai oublié le nom du compositeur. Voilà. Comme par hasard, en pleine Médina, depuis les années début 70, vivait Henri-Louis de Lagrange, qui est le spécialiste numéro 1 de Gustave Mahler. Et tous ses bouquins sur Mahler et tout ont été écrits en pleine Médina de Marrakech. Vous avez aussi, si on doit parler des étrangers, vous avez aussi des membres de l'Académie française qui ont passé leur carrière à Marrakech. Nous avons des hommes politiques qui venaient souvent. Et puisque je suis à Bordeaux, je voudrais vous dire une petite confidence. Quand Chaban Delmas, qui, grâce à des amis bordelais, venait, donc j'étais le correspondant, il nous avait invités à l'hôtel Château de Lassé quand il était président de l'Assemblée nationale. Et j'étais avec mon épouse. Quand j'ai pris une photo avec lui, l'ambassadeur de Sa Majesté, qui était Dr Youssef Blackbass à ce moment-là, c'était en 1986, soirée donnée en l'honneur de la BAM. Bordeaux a quitté le Maroc en 1986. Et donc, Chaban Delmas, ce soir-là, ma femme était enceinte de 4 mois. Mais ça ne se voyait pas beaucoup. J'ai une femme qui est un peu mince, donc ça ne se voit pas beaucoup. Elle arrive ce soir, d'ailleurs. Et 2 ans et demi après, M. Chaban Delmas déjeunait chez moi avec Michel Laurent, ici présent, son épouse. Il y avait son épouse... Mais Micheline, je me rappelle, il y avait Evru Djeri, parce qu'il y avait il y avait tout un monde. Et je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez que je vais vous faire une surprise aujourd'hui. Il me dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Je dis, à la fin du repas. J'envoie le chauffeur chercher la petite, qui depuis est née, qu'elle avait 2 ans et demi, parce que je lui ai dit, Monsieur le Président, voilà la surprise. Et Chaban se retourne vers moi en me disant, Charkaoui, tu vas pas me dire qu'elle est de moi. J'ai dit, non, Monsieur le Président, mais quand vous nous avez reçus au château de Lassé, en fait, nous étions 3 et pas 2, donc, et puis avec Micheline, il voulait plus lâcher la petite. Et j'ai aussi une histoire, puisque Monsieur Juppé figure ici. Quand Monsieur Juppé était Premier ministre, et nous avons travaillé avec Michel Laurent, les gens de là-bas, entre le jumelage de... Et tous mes amis français de l'Est, de Paris, me disaient, mais ce Premier ministre, qu'est-ce qu'il est un peu... Hein? En parlant de Juppé, c'est vrai qu'il était un peu... Et personne, un jour, à Casablanca... Avant d'aller dans un dîner, je me rappelle au hall de l'hôtel, hein, je l'ai pris, j'ai dit, Monsieur le maire, est-ce que je peux vous parler franchement? Voilà ce que pensent les Français de vous. Vous êtes un peu constipé. Alors maintenant, Monsieur le maire, je vous le dis, parce que moi je suis marocain, j'ai aucun intérêt, mais je tiens à vous transmettre ce que peut-être les autres, il faut être un peu plus cool. Alors d'après mes renseignements que j'ai eus ne serait-ce qu'hier par des gens hautement bien placés, Monsieur Juppé serait un peu plus cool, alors les Bordelais peuvent me dire merci. Bon, ceci dit, c'était une parenthèse, mais pour vous dire que si j'ai fait ce livre, c'est que j'ai voulu rendre hommage, et absolument, même il y a un paragraphe qui est destiné à la communauté juive de Marrakech. La communauté juive qui vit en symbiose, dans la tolérance, avec les musulmans côte à côte, en Médina, partout, parce que le Maroc est un pays, Dieu heureusement, grâce à Sa Majesté Mohamed V, qui avait caché les juifs pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, donc pour les sauvegarder, aujourd'hui, et la suite donc de son fils qui la même chose est aujourd'hui, je crois que si on veut nous laisser tranquille, je dis bien on veut nous laisser tranquille, et que France 24 veut être sympathique avec le Maroc aujourd'hui qui fait un amalgame, parce que je m'attends peut-être une question, les gens vont me dire ce qui s'est passé en Tunisie, bon, je répondrai tout à l'heure, mais je vous dis, je suis un peu malheureux avec mes amis français qui vivent à Marrakech, parce qu'au Maroc, on n'a pas. Il y a eu une manifestation, mais tout à l'heure, je vous expliquerai réellement, est-ce qu'à Paris, il n'y a pas des grèves où la CGT descend pour des choses sociales et tout? Eh bien, au Maroc, il y en a aussi. Mais on n'a pas de problème. Tout le monde est autour de la personnalité de Sa Majesté. Il n'y a pas un seul, parce que les gens disent, nous n'avons aucun problème avec notre roi, mais nous avons besoin d'une évolution de la société. Et ce sont des demandes tout à fait normales que des gens puissent militer pour et demander des changements au niveau social, de l'habitat, de l'emploi, comme dans tous les pays du monde. Donc voilà. Alors ce livre, je l'ai fait par amour, cher ami, pour ma ville, parce que j'ai voulu rendre à ma ville un tout petit peu de ce qu'elle m'a donné énormément, et j'ai voulu parler de tous ceux, qu'ils soient marocains, qu'ils soient morts ou vivants, qu'ils soient français ou juifs, et tous ceux qui ont apporté à Marrakech quelque chose. Voilà.
Aziz, moi je voudrais entrer un petit peu dans le détail maintenant, si vous le voulez bien. Vous avez parlé des hommes, on ne va pas y revenir. Quelques hommes célèbres, quelques hommes contemporains ou pré-contemporains. Il y a tout un chapitre qui est consacré aux monuments. Alors, on ne va pas peut-être refaire le détail de tous ces monuments que je crois tous les Bordelais connaissent, soit pour avoir été à Marrakech, soit pour en avoir entendu parler. Je veux parler de la place Jemaa el Fna, je veux parler de la Koutoubia. Mais il y a un certain nombre de détails que vous évoquez qui mériteraient peut-être d'être exposés. J'ai trouvé un chapitre fort intéressant à propos des souks. Alors le souk, c'est un peu ce qui est exaspérant quand on va à Marrakech, parce que c'est un côté prégnant, un petit côté racoleur. Mais il y a dans les souks quelque chose qui se cache et qui mériterait d'être évoqué, c'est la relation entre les artisans, les malems
et le maître. Et le maître, l'amine.
Et l'amine. J'ai trouvé ce passage qui est juste esquissé.
Je ne sais pas si... Oui, je comprends ce que tu veux dire.
Et j'aimerais savoir si c'est transposable, par exemple, dans un pays comme la France, où l'artisanat est un petit peu en déshérence. Comment ça fonctionne?
Comment ça fonctionne? C'est très simple. Chaque corporation, quelle qu'elle soit, se réunit et elle reconnaît que tel est un patron. C'est un patron, pourquoi ? Non pas par c'est une élection politique ou quoi, c'est parce qu'il domine la profession. Et il connaît la profession de 1 à Z, c'est ce qu'on appelle les oumana, amine, c'est-à-dire confiance. Le mot amana, c'est la confiance. Et donc le amine, c'est un homme de confiance dans tel métier. On est d'accord. Ça veut dire que quand un amine est là, si la famille ne voulait pas envoyer l'enfant à l'école, alors que la scolarisation au Maroc est obligatoire à partir de 7 ans. Ça, pour qu'on le sache, sauf les gens qui se dérobent à ça, mais on n'y peut rien. Donc, on envoyait le fils commencer à prendre un métier et qui gravit les échelons. Et cette corporation se réunit, elle dit que tel, par exemple, tel est l'homme. Et quand on désigne ce monsieur, ce n'est ni les autorités, ni c'est la profession elle-même qui désigne que monsieur Tartampion est le patron, l'homme de confiance, le amine, etc. Il devient incontournable pour régler tous les différends qui peuvent se poser. Que ce soit entre une tierce personne, un acheteur et l'homme de la corporation, sur un, voilà. Et quand on s'adresse à ce amine, et quand il donnait sa décision, elle était respectée plus qu'au tribunal, où on peut faire appel. Ça y est, c'est fini. Quand, par exemple, deux artisans de la même corporation ont un problème à régler, ils vont chez l'amine. Lequel amine? Qui sont généralement des gens qui sont... Il écoute les deux parties et il émet son jugement, qui est appliqué et qu'on ne discute pas. Donc le amine, si vous voulez, c'est quelqu'un qui, par exemple, des Français qui ont construit des riades, ont un problème avec le gars du zellige, des carreaux, ou le gars de l'électricité, tout ça, avant d'aller au tribunal de commerce pour déposer une plainte, ou des Français, même des Français entre eux. Il y a eu beaucoup de plaintes comme ça. Ils vont voir l'amine. Alors, si, bien entendu, une des deux parties n'accepte pas, ben on s'adresse au tribunal maintenant. Voilà. Donc l'amine, c'est un homme de confiance qui régit et qui est un peu le patron d'une profession déterminée.
Mais est-ce que ce rôle est institutionnalisé ou est-ce que c'est une simple tradition ?
Non, c'est reconnu une fois. Une fois, c'est déposé chez les autorités parce qu'on ne peut pas... D'accord, c'est les professionnels, mais une fois qu'ils se réunissent, ils désignent que c'est Monsieur X... Il y a un PV et on le dépose chez les autorités, à la mairie, tout ça. S'il y a un problème, on dit allez voir tel et pas quelqu'un d'autre. Et l'amine, en général, je dis bien en général, ne change qu'après la mort. Et en général, il y a un amine adjoint ou deux adjoints qui le secondent dans l'exercice de sa fonction afin qu'ils apprennent pour se préparer à être et prête et être
Amine à leur tour.
Amine, voilà.
Alors je vais m'écarter un petit peu du livre lui-même. Vous nous avez parlé de Marrakech, ville très touristique. Vous nous avez dit que une des ressources essentielles de Marrakech était le tourisme, même si les industries agroalimentaires se développent actuellement. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la place du tourisme dans l'économie marocaine actuelle?
À la place du tourisme? Bon, si vous voulez, vous savez que Sa Majesté Mohamed VI, l'actuel roi, avait décrété en 2000 l'objectif de 10 millions de touristes à l'horizon 2010. Il n'a pas été atteint. Tout a été fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau des aéroports, au niveau donc de l'hôtellerie, au niveau de l'octroi de terrain pour la construction d'hôtels, et ceci à travers le Maroc. Et Marrakech a eu une part de lion énorme, une grande part. Donc, et l'année dernière, nous avons dépassé les 9 millions. Aujourd'hui, je vous signale que le tourisme, il y a un plan qui a été... En mois de décembre, il y a eu une grande réunion présidée où il y avait toutes les instances du tourisme mondial invitées. Et le Maroc se projette en l'an 2020 pour 20 millions de touristes. Bien. Alors, Marrakech elle-même prend une grande part. Je dirais à peu près... bon, je suis un peu mal placé en tant que Marrakechi, mais généralement, les gens qui viennent au Maroc, même quand ils viennent, ils veulent, par exemple, à Ouarzazate, à Agadir, il y a des excursions qui font une journée. Et on veut absolument faire ce Marrakech. Donc, si vous voulez, mais Marrakech absorbe, je dirais, 60% à peu près des touristes qui viennent à Marrakech. Donc, et vous savez que sur le plan financier, le tourisme n'est pas, jusqu'à aujourd'hui, la première rentrée de devises au Maroc, mais c'est les travailleurs étrangers au Maroc qui sont la première. Il y a 2 ans, c'était presque égalité. Donc voilà, c'est au point de vue entrée de devises. Donc c'est... Mais le tourisme reste quand même un domaine qui apporte énormément au Maroc.
Aziz, vous avez évoqué tout à l'heure, et c'est une chose qui est bien connue, l'éducation. Le Maroc dispose d'un système d'éducation qui est tout à fait remarquable. Il y a l'enseignement secondaire, il y a les facultés, il y a des écoles de commerce, mais il y a un enseignement qui nous laisse toujours nous perplexes, Français, c'est l'enseignement religieux. Vous avez cité dans votre livre, c'est normal, la Médarsa Ben Youssef. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle un enseignement spécifique donné dans cet établissement? À qui est-il destiné et sous quel contrôle se situe-t-il?
Bien. Alors, l'enseignement au Maroc, il connaît beaucoup de facettes. Alors, l'enseignement le plus typique, c'est les écoles de l'État, qui sont des écoles comme les écoles françaises, où on apprend toutes les matières, du calcul à la géographie, etc. Mais il y a ce qu'on appelle l'enseignement sur lequel des gens dirigent. Il ne faut pas oublier que le roi au Maroc est le patron de la religion, donc c'est le commandant des croyants, et nous sommes un pays sunnite, pas chiite, et nous sommes un pays où la religion, que ce soit les prêtres, ça va du commandeur des croyants jusqu'aux prêtres, nous sommes un pays de tolérance. Nous pratiquons le rite malikite, qui est un rite où vraiment... La religion, c'est la charité, ne pas faire de mal. Et aujourd'hui, nous sommes malheureux. Je fais cette petite digression de voir ce qui se passe un peu dans le monde. On dit que c'est l'islam. Je ne pense pas que ça soit l'islam quand c'est l'extrémisme. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez ce sujet mieux que moi. Mais aujourd'hui, nous sommes un pays musulman. Nous sommes un pays qui s'ouvre vers l'international. Nous sommes un pays qui s'ouvre. D'ailleurs, le Maroc, vous savez... L'Europe, les 27 de l'Europe, ont accordé au Maroc, signé le 18 octobre 2009, le statut avancé. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que le Maroc avance énormément et se met à un niveau comme à l'Europe. Et aujourd'hui, on est dans un bouillonnement où on est en train de mettre beaucoup de choses à niveau, non seulement l'enseignement, l'agriculture, l'énergie propre, etc., pour être le membre associé comme il faut. Alors, mais n'oublions pas que nous sommes un pays musulman lié à notre Coran, lié à notre islam, et il y a des gens, comme il y a chez vous des gens qui optent pour être moines ou catholiques, etc., il y a des gens qui optent pour un enseignement ce qu'on appelle originel, c'est-à-dire lié à l'étude de la théologie, l'étude du Coran, etc. Parce que nous avons des mosquées, nous avons besoin des imams, nous avons besoin de théologiens, nous avons besoin... Et donc le Maroc, bon, si vous voulez, par rapport à la France, parce que, bon, c'est un truc qui est propre. Et là, je te remercie de m'avoir posé cette question... Pour la raison suivante, ce que souvent, quand en France, je prends la France, commence à, je dirais pas critiquer, mais à vouloir analyser ce qui se passe au Maroc, je voudrais qu'on l'analyse par rapport au Maroc et une situation qui existe au Maroc, et non pas par rapport à ce qui se passe à Bordeaux, à Paris, ou par rapport à la mentalité française. Nous sommes deux sociétés qui se complètent peut-être, mais nous sommes deux sociétés différentes. L'essentiel, c'est que au Maroc, il y a le respect de l'autre, il y a la tolérance, il y a... Nous avons donc ces choses-là. Donc, pour répondre à ta question, nous avons besoin d'un enseignement originel pour lequel les gens, mais ils le font, dans le cadre du rite qui est autorisé par l'État. S'il y a des gens qui partent vers l'extrémisme, et ça, vous ne pouvez pas contrôler... Mais le Maroc, aujourd'hui, nous ne sommes pas des wahhabites, nous sommes le rite malikite. Voilà, et cet enseignement, il est donné parce qu'il y a une panoplie de gens qui ont envie de faire ces études théologiques. Vous n'allez pas les en empêcher.
Je crois que cette question méritait d'être posée.
Non, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas oublier que le Maroc est un pays musulman. Non, mais... Et voilà. Voilà. Très bien.
Je voudrais simplement remercier, avant de vous rendre votre liberté, et Aziz Charkaoui et l'auditoire, parce que je vois que de Marrakech, on est passé à des problèmes beaucoup plus généraux et d'ailleurs tout aussi importants. Donc merci de votre écoute, merci de votre attention. Et Aziz se tient à votre disposition pour signer et dédicacer son livre. Merci à tous.